Je prie. Seigneur, merci parce que dans nos faiblesses, tu nous soutiens. Merci parce que dans l'épreuve, tu nous permets de tenir, tu nous donnes l'endurance. Au temps des rameaux, Jésus a porté ses regards plus loin que l'épreuve à subir, nous a dit Yo. Et les héros de la foi, eux, ont vu ce qu'ils ne possédaient pas. Et pour cela, ils ont aimé persévérer. Je ne sais pas si les sportifs des Jeux Olympiques ont fixé leurs yeux sur Jésus pour réussir l'épreuve, où ils ont fixé leurs yeux sur la ligne d'arrivée pour réussir l'épreuve. Alors, si je vous dis Martin Fourcade, Perrine Laffont, Alexis Peintureau, ça c'est plus ou moins connu, c'est les champions olympiques. Et si je vous dis Benjamin Diavet, Arthur Bauchet, Frédéric François, pas le chanteur ou autre chose, Marie Bauchet, ils ont aussi remporté des médailles d'or avec et malgré leur handicap. Alors, personnellement, je m'imagine plus facilement handicapé que sportif valide, mais il me faut aussi, avec mes propres faiblesses et limites, participer à une autre compétition qui est la vie. Il me faut fixer les yeux sur Jésus pour réussir et finir la course et aller jusqu'au bout. Alors, êtes-vous, vous aussi, à titre personnel, engagé dans une compétition, disons spirituelle ? Et ce n'est pas une question, en fait. L'Église est-elle aussi engagée dans cette même compétition ? Oui. Alors, qu'en est-il de ta course sur terre ? Que visons-nous ? Première place, avec les honneurs ? Ou bien on sera déjà content si on finit même en dernier ? Et est-ce qu'on prétend pouvoir courir sans se disqualifier, qu'est-ce qui nous attend à la fin? Voici ce que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, a pu écrire dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Vous, athlète paralympique, vous avez une nouvelle fois repoussé les limites de l'effort humain. C'est ce qu'a déclaré le président du comité paralympique. Ces athlètes ont brillé et ils ont reçu pour cela des breloques en or. Oh, je veux bien quand même cette breloque-là, mais des breloques en or, en argent et en bronze. Et au temps des premiers Jeux olympiques, quand Paul a écrit, c'était des couronnes d'olivier que les vainqueurs recevaient. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas tant leur performance, ni leur médaille, mais c'est plutôt leur persévérance lors de leur entraînement, année après année. Les sacrifices qu'ils ont endurés sur le plan personnel, familial, professionnel, physique. Tout ça pour une course, et à l'arrivée, peut-être une médaille. Qu'est-ce qui les motive donc tant? Qu'est-ce qui les pousse à autant de sacrifices, d'engagement et de détermination? Eh bien, je ne sais pas. Parce que je dois reconnaître que je n'ai pas l'âme d'un sportif. Mes chaussures de course se sont en fait transformées en chaussures pour le jardin. Excuse-moi Sylvain, quand du temps où on courait ensemble, c'est fini. En fait, je me sens plus handicapé que sportif, en réalité. Affaibli, limité par le péché qui règne en moi chaque jour. Et pourtant, cela ne doit pas m'empêcher de courir, de vivre en vue de remporter le prix éternel. C'est l'histoire d'une maman et d'une petite fille. La petite fille a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors la maman essaie de trouver un sport pour canaliser sa fille, voire pour l'épuiser. Bon, la fille a un long corps, elle se dit, dans l'eau, ça va aller bien. Elle l'inscrit à un club de natation. Un entraînement. Bon, la fille, elle a 4 ans. Un entraînement par semaine, compétition, le week-end. Rien ne l'arrête. Pourtant, malgré ses bons résultats en entraînement, à la compétition, elle arrive toujours dernière. Et ça dure des années comme ça. Un jour, l'entraîneur ne sait pas pourquoi. Un jour, la maman va voir sa petite fille et lui dit « Tu sais, ce serait bien que pour cette course, tu puisses réussir à finir la course première. » Et là, la petite fille, elle ouvre des yeux. Une course ? Mais moi, je croyais qu'on rencontrait des gens dans l'eau. Je croyais juste qu'on rencontrait, comme à l'entraînement, des gens qui s'entraînent pour barboter dans l'eau. Elle n'avait pas imaginé, elle n'avait pas compris. Ses yeux se sont ouverts, illuminés. Une étincelle a jailli dans ses yeux. Elle est partie. Elle a réussi. Elle a gagné la course. Et elle a gagné la suivante. Et elle a encore gagné la suivante. Et ses résultats ont tellement été performants qu'elle est passée au niveau au-dessus dans son club de natation. Son monde a changé quand sa manière de voir a changé. Peut-être que nous aussi, nous avons besoin de changer notre manière de voir ce monde, notre manière de voir notre vie. Quelle est ta vision de vie, ta perspective de vie chrétienne? Alors parfois on a été à l'image de cette petite fille, inconscient de ce qui se jouait dans notre vie, jusqu'au jour où nos yeux, par la grâce de Dieu, se sont ouverts sur une autre réalité. Un enjeu spirituel tel que ça vaut la peine de se démener, de se sanctifier, de s'encourager, ne pas baisser les bras. Maintenant que nous sommes engagés dans cette course éternelle, nous ne sommes plus spectateurs, bon, un petit peu ce matin, assis, mais nous sommes devenus des compétiteurs. Et à l'image de ces sportifs, qu'ils soient valides ou handicapés, est-ce que nous sommes prêts nous aussi à repousser les limites de ce que nous sommes naturellement, c'est-à-dire pécheurs et manquant la cible? Dieu nous appelle à remporter une couronne de vie éternelle. Courons vers cela, mais sans tomber ou sans risquer d'être disqualifié. Il nous faut courir sans être disqualifié, sinon à quoi bon tous ces efforts? Courir sans avoir l'espoir de finir la course n'aurait aucun intérêt. Quelle déception on a pu lire sur le visage de ces sportifs quand ils se trouvent éliminés pour une chute. Ou même parfois rétrograder la deuxième place pour une bretelle qui tombe au moment du patinage artistique. Quel dommage! Voici ce que nous dit encore l'apôtre Paul. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dieu est honnête. La course sera difficile. La course est difficile. Et il y aura des difficultés et des tentations. Dieu ne nous dit pas que nous serons protégés et préservés de tout. Dieu nous prévient pour que nous courions de manière à ne pas tomber. Dieu nous encourage en nous rappelant que les vicissitudes de cette vie ne sont pas au-delà de nos forces. Dieu nous encourage en nous disant que nous n'échapperons pas aux difficultés de cette vie. Pour qui n'aime pas souffrir, nous ne passerons pas au travers. Mais Dieu a préparé le moyen pour que l'on en sorte vainqueur. Il nous faut courir sans être disqualifié. Il nous faut construire notre vie sans que tout tombe en ruine à la fin. Toujours dans la même épître aux Corinthiens, vous êtes l'édifice que Dieu construit. seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Vous êtes à Christ, à Dieu. Sur quoi ta vie est-elle bâtie? La question peut ne pas paraître très originale, surtout si on a l'habitude de venir à l'église. Pourtant, il est bon de s'interroger, de se questionner sur le sens de notre vie. Quel est le sens de ta vie? Vers quoi te diriges-tu ce matin? Et les autres jours aussi de la semaine. Le texte biblique pose même un autre regard, puisqu'il ne dit pas sur quoi repose notre vie, mais sur qui. Si ta vie repose sur le Christ, alors je vois ce grand verset devant moi, vous ne le voyez pas, il est dos à vous, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si ta vie repose sur le Christ, si c'est lui que tu suis, tu as donc l'assurance suivante, cette parole du Christ gravée dans ta foi. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé. Est-ce le cas? Est-ce réellement ton assurance? Demande-toi où va ta vie, sur quoi est-elle fondée, sur qui est-elle bâtie d'autre que le Christ? Que va-t-il rester à la fin de notre vie? Pauvre fou que tu es, dit Jésus dans l'une de ses leçons de vie. Cette nuit même, tu vas mourir, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Où vas-tu? Qui dirige réellement ta vie? Et si ta vie est bâtie sur le Christ, comment construis-tu avec lui? De quelle manière et avec quoi? Le texte biblique est saisissant, car Dieu va juger notre œuvre de vie d'une manière radicale. Ça passe ou ça crame, si vous me permettez l'expression. Tous ceux qui ont bâti leur vie sur le Christ seront sauvés, mais certains d'entre nous seront comme nus, sauvés in extremis, à l'image de Lot, qui a été sauvé, mais qui a tout perdu. J'ai des projets dans ma vie. Certains se réaliseront, d'autres pas. Nous avons des projets. J'ai un compte en banque. Peut-être même ai-je une ou des assurances vie. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des habits. Vous aussi, vous avez certainement tout cela. Et un jour tout cela s'arrête. La manière dont nous gérons tout cela sur Terre a son importance. Mais la manière dont nous gérons notre vie pour l'éternité est encore plus grande. Lot a tout perdu. Il a été sauvé, mais il a tout perdu. Finalement, qu'a-t-il fait pour Dieu? Je n'ai pas trop de réponses. Mais nous, que pouvons-nous faire pour Dieu ou avec Dieu dans cette vie? Un jour, peut-être, Dieu nous dira: très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait de bien ou en mal durant sa vie terrestre. Une course à finir, un ouvrage à terminer et un jugement à venir. Paul ne voyait pas sa mission comme quelqu'un qui peut passer sa vie à attendre tranquillement le retour du Christ. Il sentait que Dieu l'avait mis sur terre pour une raison importante, une raison éternelle. La même chose est vraie pour toi, pour moi et pour l'Église. Ce matin, ce n'est pas simplement les membres d'une association cultuelle de loi 1905 qui sont réunis là. Ce matin, nous ne sommes pas une génération d'enfants éduqués dans un contexte chrétien avec des valeurs protestantes qui, maintenant devenus adultes, fréquentent la même église que leurs parents. Ce matin, si nous sommes là, c'est que Dieu nous a appelés à le suivre. Nous avons été saisis par le Christ. Notre raison d'être, c'est Christ en nous. Christ en vous. Garantie de votre espérance, de la gloire à venir. Et voici ce que je demande dans mes prières, dit l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens. C'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance, en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Imaginons que je croise Marie, François, Martin, tous ceux que j'ai cités, c'est tous les sportifs handicapés dans la rue. Ben, si je les croise dans la rue, je ne verrai que des sportifs handicapés, surtout que je ne suis pas physionomiste. Mais quand je les vois réaliser leurs performances sur les pistes, je suis ébloui par ces champions. Alors comment les définir? Comment est-ce que je les vois? Comme des personnes handicapées ou comme des champions? Ou des champions handicapés? Et nous? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est des pécheurs, des personnes faibles et limitées, incapables de rester fidèles à Dieu de manière sûre et durable? Ou bien des chrétiens sauvés par grâce, sanctifiant leur vie et témoignant de la véracité de Jésus autour d'eux? Ou bien tout ça à la fois? Nous sommes faibles, handicapés spirituellement. Et pourtant, nous pouvons être vus comme purs et irréprochables, car c'est là l'œuvre que le Christ produit en nous. Et mieux que de l'or, de l'argent ou du bronze, nous pourrons charger d'œuvres justes que Christ a préparées pour que nous les accomplissions sur terre, nous présenter un jour devant Dieu. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, dit l'apôtre Paul, pour que soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non nos propres capacités. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Sur quoi as-tu les yeux fixés? Sur tes problèmes? Ou sur qui as-tu les yeux fixés? Sur le Christ? Ça change tout. Nous sommes pour certains d'entre nous accablés par l'usure du temps sur notre corps. J'ai d'ailleurs de plus en plus mal au dos. c'est pas grand-chose. Piétiné par notre morale, trop soucieux ou anxieux. Désemparé par nos problèmes familiaux, professionnels, conjugaux. Persécuté par nos idées noires, la dépression, la mésestime de soi. Terrassé par nos faiblesses, nos propres limites humaines. Pourtant, au milieu de ces vases d'argile que nous sommes, une puissance extraordinaire se fait jour et se révèle de manière insidieuse. Une puissance de vie, la puissance du Christ en nous, l'espoir d'une vie glorieuse. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. La lecture de la Bible aide à ça. La prière, la méditation, la communion fraternelle, l'émerveillement devant la nature. Notre foi nous fait voir les choses autrement que ce que les communs des mortels voient. Nous, nous croyons en la force de Dieu et en la richesse du Christ qu'il nous a fait connaître. Nous acceptons l'appel inconditionnel que le Christ a posé sur nous. Il ne reviendra pas sur ses promesses pour nous. Il nous a sauvés pour le servir et l'adorer. Qui gagnera? Qui remportera le prix céleste au final? Ceux qui vivent selon les normes de ce monde et du prince éternel des ténèbres qui le gouverne? Ou ceux qui vivent selon les normes du royaume de Dieu, invisible sur terre, mais qui vient de manière sûre et indéfectible. Nous marchons et suivons celui qui est le chemin. Nous menons une vie sainte quand nous laissons le Christ agir en nous. On l'a chanté, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Combien parfois je suis désespéré par ma capacité naturelle à dévier du chemin qu'est le Christ. Combien parfois j'ai j'ai l'impression de faire outrage à Dieu tellement naturellement je regarde vers les réalités de ce monde. Et j'oublie de regarder aux réalités invisibles qu'est le Christ. La Bible nous dit, c'est pourquoi débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Un jour, mes yeux, alors c'est pas Vera le prince charmant, ça c'est dans Walt Disney, un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est cette pensée qui doit nous diriger, dit l'apôtre Paul, et il parle de notre résurrection en Christ. C'est cette pensée qui doit nous diriger. Si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Visez tous le même but, partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles. Quant à nous, qui sommes citoyens des cieux, de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera nos corps misérables pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. Tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile. C'est pour vous le signe que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est pour vous le signe que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. C'est ce qui me désespère dans ma nature humaine. Quand je m'éloigne de ce chemin, quand je regarde aux réalités de ce monde, c'est comme si j'étais en train de dire à Dieu, ce que tu as fait pour moi n'existe plus. Dans notre jardin, les amis nous ont offert un jour un cadeau. Alors avec le temps, il rouille un peu, mais il est beau. C'est une tige. Et sur cette tige, il y a une autre tige de fer qui oscille. Et au bout de ces deux tiges de fer, des petits oiseaux qui tournent. Ça tombe bien parce que les oiseaux apparemment sont amenés à disparaître, mais bon, ils ne les renfonceront pas, cela. Et avec le vent, cette tige oscille régulièrement. Et je contemple souvent ce cadeau, cette décoration de jardin, et je me dis, voilà ma vie en Christ, centrée sur lui, quelle que soit la pluie, le vent, la grêle, centré sur Christ, un équilibre toujours précaire, toujours oscillant, et pourtant jamais il ne tombe. Bon alors, en réalité, parfois il tombe. Alors, je le ramasse et je le repose dessus. Mais voici l'image, spirituellement, nous sommes sauvés en Christ, centrés sur lui. Nous pouvons regarder aux problèmes de ce monde, mais centrés sur Christ, nous pourrons tenir en équilibre. La course est difficile. Et bon nombre d'entre nous pourraient tenter d'abandonner, de trop pencher et de tomber. Ou tout simplement croire qu'ils n'arriveront pas à franchir la ligne. Quand ils s'élancent dans l'épreuve des Jeux Olympiques, les sportifs ne pensent plus à leur handicap. Ils ne pensent qu'à franchir la ligne. Ce ne sont plus des personnes handicapées qui s'élancent sur la piste, mais des compétiteurs, des athlètes, certes avec un handicap, mais ils n'en ont que faire à ce moment-là. Nous aussi, débarrassons-nous de tout ce qui peut nous retenir en arrière et fixons les yeux sur notre destinée en Christ. Ne nous laissons pas abattre par le découragement ou toute autre pensée défaitiste. Christ aussi a enduré cette épreuve. Alors, ayons les yeux fixés sur lui. Il est notre modèle, notre Rédempteur. C'est lui qui nous guide, nous montre la voie à suivre par son Esprit Saint. Oui, l'effort de sanctification est considérable. Oui, l'opposition fait rage, mais la ligne d'arrivée est là, à portée de foi. Ta vie ne se finit pas maintenant, elle ne se limite pas à aujourd'hui et à ce que tu vis aujourd'hui. Mais nous attendons et soupirons après une vie glorieuse en Christ qui va venir juste après cette ligne d'arrivée. Une magnifique récompense nous attend dans les cieux. Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Et si nous sommes sur le point de fléchir ou de céder à la tentation, soutenons-nous les uns les autres, partageons nos peines et nos fardeaux s'en trouveront allégés. Nous ne sommes pas seuls à endurer cette course de foi. Dieu nous a mis en relation les uns avec les autres, son corps, l'Église. Je déclare et proclame qu'il existe dans cette Église un frère, une sœur avec qui je peux continuer ma route si dure soit-elle. Quelqu'un qui prendra le temps de m'écouter et qui pourra prier pour moi et avec moi. Ensemble, nous allons nous soutenir et proclamer combien Dieu est bon et fidèle. Et si je suis face à un terrible et grand problème, nous nous souviendrons d'un Dieu plus grand que mes problèmes, de celui qui peut prendre ma souffrance et me consoler et m'encourager à croire et m'appuyer sur lui, lui faire confiance. Et ensemble, unis par la foi qui nous porte, nous arriverons à franchir la ligne d'arrivée, à saisir le prix de notre foi, le salut en Christ. Vivons à partir de maintenant comme de futurs citoyens des cieux, en étant unis à Christ. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur. Tiens-moi. Plus près de toi toujours, donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.